André Malouf a coécrit avec Karim Haïdar « La cuisine libanaise de Beyrouth à Paris », un livre de cuisine pour se régaler et voyager. Elle sera présente à la Biennale du Livre le 12 août, de 10h à 14h, place de la Pilet. Bonjour André Malouf.
Bonjour.
Quel a été votre premier contact avec la cuisine ?
Enfant, je pense. Dès que j'étais enfant, ma mère était une très bonne cuisinière. Et la famille de ma mère était des professionnels de cuisine, mais surtout de pâtisserie, de confiserie, de chocolaterie, de glace, au Liban. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Et c'était ce qui nous intéressait le plus, c'était bien sûr ce domaine-là, c'est-à-dire la pâtisserie et la confiserie. Et pas vraiment la cuisine. La cuisine, c'est venu un peu plus tard. Je suis toujours intéressée à la cuisine libanaise, mais quand je vivais au Liban, j'étais beaucoup plus attirée par les cuisines étrangères, par les cuisines internationales, par la cuisine japonaise, indienne, chinoise, de toutes sortes, la cuisine française, bien avant les autres. Et c'est en venant en France que, je vais dire, l'appel de la cuisine libanaise s'est imposé tout seul parce qu'elle a commencé, on s'est rendu compte qu'elle nous manquait énormément. Et là, j'ai commencé réellement à cuisiner, à faire de la cuisine libanaise de manière plus intensive, on va dire. Alors qu'avant, je faisais la cuisine internationale, des pâtes et toutes sortes enfin, de cuisines, pas nécessairement de la cuisine libanaise.
Comment vous est venue l'idée ensuite d'en faire un livre ?
Alors, je pense que le fait de partir du Liban, de quitter le Liban, que bon, je suis partie du Liban avec mes enfants, mon mari, de manière assez rapide et brutale. C'est en vivant en France que ça s'est surtout imposé. Moi, j'ai toujours cuisiné chez moi. J'ai commencé à faire beaucoup plus de cuisine libanaise. Et déjà, même mes enfants, quand ils étaient petits, je leur montrais un peu la base de la cuisine. Et la base, je profite pour vous le dire très rapidement, est très simple. On commence toujours par mettre de l'huile sur le feu, dans une poêle ou dans une casserole, de l'huile d'olive idéalement, des oignons, de l'ail, des épices, et puis ensuite les légumes, avec ou sans viande. Et ça, je vous ai résumé toute la cuisine libanaise.
Ce plaisir de la transmission qui vous a donné envie de le transmettre au plus grand nombre.
Alors, le plaisir de la transmission est, je crois, l'urgence de la transmission, parce que nous sommes tous partis, bon, c'est une génération donc, qui est partie du Liban, beaucoup, beaucoup de personnes se sont installées un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, les plus proches en Europe, ceux qui ont eu de la chance, je dirais, en Europe. Il fallait transmettre cette cuisine à nos enfants, et ça, c'est l'idée du livre. C'est que j'ai voulu, moi, que mes enfants puissent faire eux-mêmes la cuisine qu'ils ont toujours mangée chez eux et la cuisine qui va leur manquer un jour, parce qu'ils sont loin de leur famille, ils sont loin de leur mère, de leur grand-mère, et que ça va leur manquer. Alors, le concept vraiment précis du livre, c'était que les recettes soient bien expliquées, détaillées, pour que n'importe qui ne sait pas cuisiner puisse faire une recette de bout en bout et qu'elle soit réussie. Et les retours que j'ai eus depuis maintenant, le premier livre a été publié en 2007 et le dernier en 2023, j'ai toujours eu des retours, et ça c'est la plus grande joie et ce qui me fait vraiment le plus plaisir. J'ai toujours eu des retours de jeunes qui me disaient « j'ai réussi à faire cette recette et je suis vraiment heureux parce qu'elle a vraiment le goût de la recette de ma mère ou de ma grand-mère ». Et donc ça c'est l'idée maîtresse du livre, c'est la raison d'être du livre.
Pour vous aider dans cette transmission, vous avez eu l'aide du chef Karim Haïdar.
Comment ça s'est passé. Une de mes sœurs aînées a marié son fils et il voulait le faire dans un restaurant libanais. Elle a trouvé un tout petit restaurant libanais qui était rue Mazarine, qui était minuscule. Et donc le mariage s'est passé là et on était éblouis par la qualité de la cuisine. Vraiment, c'était délicieux, raffiné. Et puis, bon, l'idée de faire ce livre avec un chef a cette raison essentielle, c'est les dosages et les durées de cuisson. Ça, c'est la plus grande difficulté des cuisines traditionnelles. Les cuisines traditionnelles, en général, vous n'avez pas de précision des quantités. En tous les cas, la cuisine libanaise, les cuisines donc, de notre région, des pays du Levant, vous n'avez pas de précision sur les quantités, sur le poids, sur les dosages, sur les volumes d'eau et sur les durées de cuisson. C'est la chose la plus compliquée à faire qui peut vous faire rater toutes les recettes. Ou vous angoissez parce que vous ne savez pas à quel moment il faut arrêter la cuisson. Quand est-ce qu'il faut mettre les épices ? Donc j'ai proposé un jour à Karim, que j'ai connu donc à cette occasion-là, s'il voulait bien faire un livre de cuisine avec moi. Il était très heureux parce qu'il n'avait pas le temps d'écrire et il tenait un restaurant, donc c'était beaucoup de travail. Et donc on a commencé à collaborer ensemble. Et Karim, lui, il avait pris toutes les recettes libanaises traditionnelles, familiales, et il a commencé à les faire, à doser, à vérifier, à modifier les dosages et à les rendre professionnels. Et ça, c'est essentiellement son apport au départ. Par la suite, moi, j'ai pris le relais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, depuis 2007, c'est-à-dire, bon, ça fait beaucoup d'années, j'ai commencé, chaque fois que je faisais une recette, à noter les quantités et les durées de cuisson. Et là, donc, j'ai continué par la suite les deux autres livres à perfectionner et à corriger aussi, parce qu'il y a toujours des modifications qu'on apporte. Et parfois, on a envie que ça soit mieux cuit, moins cuit, etc. Donc, ça a évolué avec moi et avec le temps.
Quelle est, selon vous, la spécificité de cette cuisine libanaise ?
Alors, sa spécificité, tout d'abord, bon, j'aimerais dire que c'est une cuisine méditerranéenne. C'est la cuisine méditerranéenne. Aujourd'hui, quand vous allez consulter un médecin parce que vous avez envie d'être en bonne santé, vous avez envie de vous donner les meilleures chances pour ne pas être malade, pour ne pas avoir des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, des problèmes cardiaques, ce qui sont les maux d'aujourd'hui, vraiment les maladies graves d'aujourd'hui et qui touchent toutes les sociétés. Vous allez consulter le médecin, en partant de chez lui, il y a de fortes chances qu'il vous dise « Adoptez le régime méditerranéen, c'est le régime le plus sain ». Alors, en quoi il consiste ? La cuisine libanaise est typiquement le régime méditerranéen parce qu'il a en lui l'héritage de la cuisine romaine, grecque, ottomane qui ont occupé le Liban depuis l'existence du Liban. C'est un pays qui a été occupé constamment par des armées et par des civilisations qui lui ont apporté tout ce qu'elles connaissaient, tout ce qu'elles avaient, et surtout leur cuisine. Donc, on a adopté les cuisines, on les a adoptées et adaptées. Et c'est une région où il y a une profusion de légumes et de produits, parce qu'il y a de l'eau et il y a des terres qui sont cultivables, qui sont en bon état, et où aujourd'hui vous allez au marché, vous avez une dizaine de légumes différents en ce moment. Vous voyez, donc il y a une très grande diversité. La cuisine, elle s'adapte à ce qui est, aux conditions dans lesquelles elle vit. Dans la cuisine de la côte libanaise est différente de la cuisine de la montagne. Sur la côte, vous allez trouver des agrumes, vous allez trouver une cuisine où le citron est très présent. En montagne, vous allez trouver du vinaigre, vous allez trouver du sumac, qui est une poudre qui donne un goût acide aux salades et aux plats. On a des cuisines pour chaque saison, qui se modifie en fonction des légumes présents sur le marché. Maintenant, la présence de la viande et du poisson ont toujours été minimes, parce que ce n'est que depuis les années 50, je dirais, que les frigos existent de manière intensive. Donc jusque-là, la viande était vraiment... on avait de la viande une fois par semaine. Dans les villages, le boucher tuait un animal et vendait la viande. Mais donc, c'est une cuisine qui est basée sur des légumineuses, sur des lentilles, des pois chiches et sur les légumes souvent sans viande. Le poisson est rare également, contrairement à ce qu'on a ici à l'Île-Dieu.
Donc, à vous entendre, c'est vraiment une cuisine qui est au plus proche de son environnement et aussi qui fait écho à plein de préoccupations actuelles. Et qu'il y a beaucoup de végétariens, beaucoup de gens qui cherchent des alternatives justement à manger de la viande et tout ça. Et la cuisine libanaise leur offre ça d'une certaine manière.
C'est ça. Alors, j'aimerais vous dire une chose importante à propos du régime méditerranéen, parce que j'ai envie aussi de transmettre ce message. La chose la plus importante dans ce régime-là, c'est de faire la cuisine à l'huile d'olive, pas à l'huile de tournesol, pas aux autres huiles. Je vais vous dire pourquoi. L'huile d'olive, elle est extrêmement saine. C'est une huile qui va apporter au niveau de la digestion tous les bienfaits nécessaires pour ne pas acidifier le bol alimentaire. Alors que l'huile de tournesol est une huile qui va l'acidifier. L'huile de tournesol contient des oméga 6 qui ne sont pas bons parce que toute notre alimentation, beaucoup de choses que nous mangeons sont à base d'oméga 6 et nous n'avons pas suffisamment d'oméga 3 dans notre alimentation. L'huile d'olive ne contient des oméga 9 qui sont indispensables pour notre santé, qui sont vraiment importants. C'est important donc d'utiliser l'huile d'olive, d'utiliser les herbes. Bon, ici on est gâté à Lisieux, on a toutes les herbes possibles. Le basilic, la coriandre, le persil, la menthe, etc. Toutes les herbes qu'on peut utiliser, il faut les utiliser parce qu'elles vont venir enrichir le plat, apporter des éléments qui manquent aux ingrédients, qui manquent aux légumes. Et les épices, bien sûr. Alors, à propos d'épices, j'aimerais dire cette chose. Quand est-ce qu'il faut mettre des épices dans ça? Vous êtes en train de cuisiner, vous avez mis de l'huile sur le feu, l'oignon que vous avez haché finement ou grossièrement, peu importe, l'oignon rouge de préférence, ou les échalotes. Et là, si vous utilisez les épices en graines, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre les épices en graines. C'est-à-dire, vous mettez l'huile, les épices en graines, dans l'huile chaude, et ensuite l'oignon. Si vous utilisez des épices en poudre, il faut mettre l'huile, les oignons, puis après quelques minutes, quand les oignons commencent à ramollir, vous mettez les épices en poudre. Il ne faut pas les mettre dès le départ dans l'huile, sinon elles brûlent, elles ne donnent plus les éléments dont on a besoin.
Est-ce qu'également dans votre parcours entre le Liban et la France, il y a eu aussi des enrichissements un peu internationaux à cette cuisine ?
Absolument. Déjà au Liban, la cuisine française était très, très présente, et même dans ma famille. Souvent les dimanches, nous nous retrouvions, la cuisine qui était donc préparée ces dimanches-là, c'était la plupart du temps une cuisine française, une cuisine même régionale française, c'est-à-dire j'ai découvert la potée auvergnate, les plats les plus anciens de la cuisine française au Liban. Et donc, il y a une recherche et une attirance pour toutes les comme je vous l'ai dit, pour les cuisines d'ailleurs, et surtout pour la cuisine française, parce que nous avons baigné quand même dans cette culture depuis notre naissance. Dans les écoles, on était bilingue dès la maternelle, on apprenait, même avant la maternelle, souvent on parlait les deux langues à la maison, soit le français et l'arabe, soit l'anglais et l'arabe, ça dépend des familles. Et donc, dès l'école, dès la maternelle, on commençait à apprendre et le français et l'arabe en même temps. Donc la cuisine française, la culture française était très présente.
Pour commencer à donner l'eau à la bouche, s'ils ne l'ont pas déjà à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler d'une recette en particulier ? Pourquoi pas celle de l'houmous ?
Alors, celle-ci, le houmous, en plus, c'est une recette ultra facile. Qui ne va pas prendre beaucoup de temps. En plus, bon, là, à Lisieux, c'est vraiment très, très facile de pouvoir la faire. Elle a eu une réputation importante. Il y a même des restaurants qui servent exclusivement du houmous à Paris. Et donc, voilà, vous allez dans l'un ou l'autre supermarché de Lisieux, vous avez des pois chiches qui sont en bocaux, bio de préférence, qui sont déjà cuits. Donc, vous allez acheter... Tout dépend du nombre. Si vous êtes deux ou quatre, vous prenez un petit pot de pois chiches. Si vous êtes plus nombreux, vous prenez un grand. Et là, donc le pois chiche, vous ouvrez le pot, vous le mettez sur le feu à tout petit feu, pas à feu fort. Vous le couvrez. Si c'est nécessaire, vous mettez un tout petit peu d'eau. Il faut que l'eau couvre les pois chiches. Et là, vous le laissez mijoter, vous l'oubliez sur le feu pendant au moins une heure pour que les pois chiches soient parfaitement écrasés, qu'ils puissent fondre, qu'ils soient fondants. Donc, s'il faut même plus qu'une heure, tout dépend des marques. Alors moi, quand je trouve des bocaux bio et en biodynamie, c'est ce que je préfère, je les prends, parce que souvent, ils sont très, très bien cuits. Et donc, on les fait cuire à nouveau pendant une heure, dans leur eau de cuisson. À ce moment-là, vous les sortez du feu, vous les mettez dans un mixeur, une machine qui va les broyer, et vous les broyez pendant plusieurs minutes à chaud. Donc là, ils vont se réduire en purée. Vous attendez quelques minutes qu'ils tiédissent. Et à ce moment-là, vous ajoutez deux ou trois cuillères, tout dépend de la quantité, mais dans le livre, vous avez les dosages qui sont exacts. Deux ou trois cuillères de tahine, que vous trouvez également au rayon bio des supermarchés. Les deux supermarchés de Lidieu ont du tahine blanc, pas complet, pas demi-complet, le blanc idéalement. Vous allez mettre du sel, un ou deux glaçons, et vous allez mixer le pois chiche avec le tahine et les glaçons. Et là, vous allez avoir donc une purée. Il faut qu'elle ait la consistance d'un fromage blanc. Il ne faut pas qu'elle soit plus liquide. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas mettre toute l'eau de cuisson avec les pois chiches. Vous allez mettre un peu d'eau de cuisson. Vous allez réserver le reste. Et au besoin, si vous sentez qu'elle est compacte, vous ajoutez un peu d'eau de cuisson. Vous la salez. Vous mettez le jus d'un citron. Et donc, vous ajoutez le citron. Vous assaisonnez, vous goûtez. Vous le mettez dans un petit ramequin avec un filet d'huile d'olive. Ça a pris, c'est vrai, une heure de cuisson, mais votre travail à vous se limite à un citron pressé.
Eh bien, c'est simple et délicieux. Pour finir sur l'Île-Dieu, vous vouliez nous parler d'un plat spécifique à l'Île-Dieu que je ne connaissais même pas, le fricot au four.
Alors, le fricot au four, j'ai eu la chance de le découvrir chez des amis ici à l'Île-Dieu qui ont construit un four spécialement dans leur jardin pour pouvoir faire le fricot et d'autres plats également. Alors, il y a tout un rituel. La veille du jour donc, où nous allions manger le fricot, dans l'après-midi, vers 5h, 6h, nous allions chez nos amis et on commençait à mettre du bois dans le four pour chauffer le four. Alors, dans ce four-là, il y avait une cheminée au-dessus du four, rempli de sable et de matériaux de ce type qu'il fallait aussi sécher parce que souvent c'était la première fois qu'on faisait fonctionner le four après l'hiver. Donc on mettait du bois dans le four et on les faisait vraiment chauffer pendant 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut, 3 heures même. À l'heure de l'apéritif, on avait apporté avec nous une pâte à pain. En tant que Libanaise, moi j'apportais du za'atar qu'on mettait sur la pâte à pain, le za'atar étant de l'origan avec de l'huile d'olive. Et donc, on mettait soit la sauce tomate, soit le za'atar sur la pâte à pain, et on enfournait donc ces pâtes. On avait poussé les bûches vers le fond du four, et on avait balayé le four pour que le sol soit propre. Et là, on faisait glisser donc la pâte. En 2 minutes, la pâte gonflait, elle était cuite, on les sortait aussitôt, et donc on prenait l'apéritif la veille. Le bois continuait à brûler toute la nuit. À un moment donné, le soir, on va dire vers 8h, 9h, notre ami venait enlever les bûches, balayer tout le four était vide. Et à ce moment-là, on mettait la grosse marmite de fricot à cuire au four. Alors, dans la marmite, il y avait de la viande, toutes sortes de viandes, de la viande de porc, de la viande de bœuf, de la viande de veau, parfois du mouton, donc ce qu'on avait comme viande, des pommes de terre, de l'oignon coupé, beaucoup d'oignons. Il y avait peut-être 1 ou 2 kilos d'oignons, 2 kilos de pommes de terre et je ne sais pas combien de kilos de viande. Couvert d'eau, à niveau, je ne sais plus s'il y a du vin blanc ou pas, mais ça c'est à vérifier, je ne m'en souviens plus. Et donc, on fermait la marmite, on la mettait au four et on fermait le four jusqu'au lendemain. Et le lendemain, matin, on ouvrait le four, on sortait la marmite. Le haut de la marmite était noir. Il avait cuit donc à four chaud toute la nuit. Et la viande était fondante, les pommes de terre cuites, les oignons, on ne les voyait plus, ils avaient disparu. Et c'était un pur délice.
Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Et donc voilà, si vous voulez découvrir toutes les recettes libanaises de André Malouf et de Karim Haïdar, donc c'est la cuisine libanaise de Beyrouth à Paris. Et donc pour rencontrer, pour discuter avec André Malouf, n'hésitez pas, c'est rendez-vous le 12 août de 10h à 14h, place de la Pilée, pour la Biennale du Livre de l'Île-Dieu. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier l'association Une Île des Auteurs et sa présidente Marie-Laure de Cazotte pour l'organisation de cet événement et pour cette rencontre. Merci beaucoup André Malouf.
Merci à vous.